Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, on se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction. Merci de nous être fidèles et c'est en compagnie d'un amoureux de l'Afrique que nous allons revenir sur les faits saillants de la semaine. Il s'appelle Jean-Pierre Campagne, il est journaliste à l'AFP, grand reporter. Il sillonne l'Afrique depuis de longues années et il vient d'écrire un nouveau roman policier cette fois qui s'intitule « Demande à la savane », une aventure qui se déroule au Kenya. Une semaine d'actualité, un magazine à retrouver bien sûr sur le site de la radio RFI.fr et sur l'application fort pratique et gratuite RFI Pure Radio. Avant d'écouter Jean-Pierre Campagne et de parler de l'actualité africaine, notamment, partons pour Londres tout de suite pour évoquer le Brexit. Alors que l'Angleterre a vécu ces derniers jours au rythme de vote parlementaire, non à l'accord avec l'Europe, mais non à une sortie de l'Europe sans accord et une date de sortie de l'Union européenne repoussée, de quoi en perdre son flegme. Une chose est sûre, la vie politique se détériore, se durcit depuis quelque temps à Londres. Écoutez par exemple ce reportage d'Anissa El-Jabri.
Assis sur le canapé du salon clair de sa maison du centre de Londres, Philip Purdon a le débit posé, mais un avis bien tranché.
Je peux sentir à des kilomètres qui est brexiteur et qui ne l'est pas parce que c'est vraiment un type de personne bien particulier. Ils sont en général plutôt arrogants, agressifs et stupides. Je connais des gens qui ne voudraient même pas qu'ils mettent les pieds chez eux. Moi-même, je n'en suis pas très loin.
I'm probably close to that.
Pas de chance pour Philippe, son beau-frère a voté pour le Brexit et ça ne s'est pas bien passé.
Les disputes que nous avons eues ont été plutôt violentes et dans ces cas-là, on dit des choses qu'on aurait mieux fait d'éviter de dire et ça reste. Et à un moment, on finit par laisser tomber.
Philip Purdon et son beau-frère ne s'adressent plus la parole depuis 2 ans, s'évitent le plus possible lors des événements familiaux comme Noël. Pas une raison pour autant pour se détourner du débat national comme beaucoup de ses amis l'ont fait. Philip suit l'actualité tous les jours et continue de s'énerver quand il écoute la radio.
Bonjour Jean-Pierre Campagne.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro, je suis ravi de vous retrouver. On avait parlé il y a 2 ans exactement de votre précédent roman, Rumba Kinshasa. On va reprendre dardard la route de l'Afrique, du Kenya notamment. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre sur le Brexit dans ce pays, l'Angleterre qui est la patrie de la tolérance. On sent qu'il y a une certaine intolérance qui se fait jour.
Oui, c'est assez révélateur de la crise engendrée par ce référendum et par cette sortie du Brexit. On le voit là, en ce moment, tous les jours, on a un happening à la télévision avec le Parlement, la Chambre des députés anglaises qui constamment change de position, avec Theresa May qui essaie constamment, elle aussi, de finalement de sauver sa position concernant le Brexit, sa volonté finalement d'arriver quand même à un accord, et avec l'Union européenne, mais également avec la majorité parlementaire, et c'est bien là le problème, c'est qu'on a l'impression qu'actuellement la Grande-Bretagne tourne en rond sur elle-même.
Et ça va continuer la semaine prochaine, a priori, puisqu'il va y avoir un nouveau vote sur le texte.
Oui, avec, semble-t-il, l'Union européenne qui leur a donné jusqu'à fin juin, mais encore faut-il que les membres du Parlement acceptent.
Ouais. Alors, parlons et partons pour l'Afrique. Parlons de votre dernier roman, Demande à la savane, Jean-Pierre Campagne, le journaliste de l'AFP, grand reporter, a le temps de se consacrer à la littérature depuis toujours, parce que ça fait longtemps que vous écrivez en parallèle, dirais-je.
Oui, voilà, j'ai le temps, c'est-à-dire je prends le temps.
Vous prenez le temps, c'est ce que je voulais dire.
Il faut décider de ce qu'on fait, de son temps et de sa vie, dans la mesure où nous n'avons que 24 heures par jour. Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, c'est un autre tempo, c'est un autre rythme. Quand je suis en reportage à l'AFP ou même à Paris, au desk Afrique, à Paris, c'est un rythme de « je suis l'actualité ». Et puis quand je pars dans l'écriture d'un roman, c'est un rythme un peu plus long, qui me demande davantage de souffle, c'est un petit peu comme entre un 100 mètres et puis un 10 000 mètres.
Alors, ce qui est formidable avec vous, Jean-Pierre, c'est que vous avez l'art de nous faire sentir l'Afrique. C'est encore le cas dans ce livre où l'on se retrouve dans un parc national au Kenya entre un djihadiste Shebab, des trafiquants d'ivoire et un commissaire qui essaie de mener une enquête, une journaliste Jane qui essaie de faire une autre enquête, mais cette fois pour la presse écrite. Et on est en Afrique. Je vous qualifiais d'amoureux de l'Afrique, mais ça, on le sent. L'Afrique, ce sont des odeurs, c'est une atmosphère. On l'avait ressenti aussi il y a 2 ans quand on avait parlé de Kinshasa.
Mais c'est ce que j'essaie toujours de donner à voir, à entendre, à ressentir et à sentir. Pour moi, c'est ça écrire. Hein. Il faut que le lecteur se retrouve dans la situation et parler de l'Afrique sans susciter toutes ces éclosions sensuelles qu'on peut ressentir, ce serait quand même très dommage.
Alors nous allons faire beaucoup d'étapes en Afrique, mais aussi ailleurs, et je vous propose de commencer notre voyage.
Sept jours dans le monde.
Et partons d'abord, Jean-Pierre, pour le Venezuela, où les choses reprennent peu à peu leur cours normal, si l'on peut dire, après la panne d'électricité qui a paralysé le pays pendant plusieurs jours, près d'une semaine. Les habitants de Caracas, notamment, correspondant jeudi de Benjamin Delisle.
Dans la capitale, la vie reprend doucement, notamment grâce à la réouverture du métro. Une réouverture partielle, toute une section est encore bloquée. À la station de Chacaito, Espinosa Yurimar guide les usagers vers des bus gratuits mis en place par le gouvernement.
Ils assurent le trajet là où le métro est arrêté. Le système devrait reprendre parce que le courant est stable. On n'a plus de problème d'électricité. Mais la coupure a endommagé certains générateurs qu'il faut remplacer pour que le métro fonctionne à nouveau.
La file d'attente est longue, mais elle avance vite car les bus se succèdent, témoin d'une reprise difficile qui affecte tous les secteurs. Après près d'une semaine de paralysie, les queues sont légion dans toute la ville, devant les commerces, les pharmacies ou encore les banques. Marie attend depuis 1 heure pour retirer un peu d'argent. Elle reste positive et dit ne pas avoir peur d'un nouveau dysfonctionnement comme cette coupure.
C'est sûr qu'il y a un risque, mais maintenant on sait qu'on doit prévoir des réserves au cas où. Et même sans être préparé, on a bien survécu. Avec la crise, le Vénézuélien est devenu résistant. Il faut aller de l'avant. On n'a pas le choix.
Trop content de retrouver une vie un tant soit peu normale, les Vénézuéliens retrouvent le sourire, quitte à oublier l'état critique de l'économie et l'avenir plus que jamais incertain du pays.
Nous en parlions samedi dernier avec Anne Mince. Cette crise au Venezuela a des conséquences aussi pour les pays alentours. Cette coupure électrique a en effet conduit les habitants du pays à aller se soigner ailleurs, par exemple en Colombie notamment. Reportage de notre correspondante Marie-Ève De Teuf.
À Cucuta, la salle des urgences de l'hôpital public Erasmo Meoz est bondée. Il y a presque autant de patients vénézuéliens que de colombiens. Nayibé est arrivé là lundi avec son mari qui a été opéré de la vésicule au Venezuela.
On a payé 1 000 $ pour l'opération. Il s'est infecté et puis jeudi, il y a eu cette panne de courant. Il était dans un état grave et on ne pouvait pas lui faire d'échographie, même en payant. Et il n'y avait pas de médicaments. Et si tu n'as pas d'argent liquide, là-bas, on ne te vend pas les médicaments. Alors des gens que je connaissais l'ont amené en voiture par l'un des chemins clandestins de Maracaibo.
10 heures de voyage au total. Le mari de Najibé est épuisé, mais il se dit heureux d'avoir passé la frontière. La panne d'électricité fait craindre à la direction de l'hôpital un nouvel arrivage de migrants en mauvaise santé. Juan Agustin Ramirez, administrateur.
Nous avons prévenu le gouvernement national que nous avions besoin d'aide. Nous ne pouvons pas continuer à faire face à une arrivée aussi massive de patients vénézuéliens. Les services risquent d'arriver à saturation et on ne pourra plus soigner personne, ni les Vénézuéliens, ni nos compatriotes.
Il y a de l'électricité, certes, en Colombie, mais le système de santé publique y est très précaire.
Suite à d'une semaine d'actualité, il faut dire que le régime de Nicolas Maduro et l'opposition se sont accusés mutuellement de la gigantesque panne de courant donc qui a donc paralysé le pays depuis le 7 mars, le premier l'attribuant à une cyberattaque et aux États-Unis et la seconde à la négligence et à la corruption. L'actualité cette semaine, c'est aussi hier un carnage dans 2 mosquées de la ville de Christchurch, exactement, plusieurs dizaines de morts et beaucoup de blessés également. un carnage presque sans précédent, Jean-Pierre Campagne.
Oui, dans tout le cas, puis ce qui étonne beaucoup, quand je me suis réveillé
hier matin,
vendredi, ce qui m'a étonné, c'est de que ce soit la Nouvelle-Zélande, parce que c'est un pays qui donne toujours une apparence de calme, de tranquillité, de solidité, que je suis moi, parce que je suis fan de rugby, donc oui. Ce sont quand même les meilleurs joueurs de rugby au monde, les Néo-Zélandais.
Honnête homme que vous êtes.
Voilà, et là, c'est assez sidérant, et bon, ça nous montre quoi, que même des endroits comme la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire des pays qui ont une économie qui fonctionne, qui n'ont pas trop de passé militaire, guerrier, ben sont maintenant totalement confrontés à cette sorte de guerre internationale qui sont menées par des extrémistes d'ailleurs, et là en l'occurrence ce sont des musulmans qui sont les victimes, semble-t-il, de meurtriers, d'assassins issus de l'extrême droite.
Alors revenons à Demande à la Savane, on parlera tout à l'heure un peu plus du Kenya que vous décrivez, de ses multiples influences, mais au cœur de ce livre, notamment, il y a le terrorisme et il y a également le trafic des éléphants, de l'ivoire.
Oui, il y a deux plaies qui actuellement font beaucoup de mal à pas mal de pays, et le Kenya entre autres. Il y a ce braconnage d'éléphants, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu de nouveau revenir sur ce problème, parce que on le rencontre au Kenya, bien évidemment. J'ai choisi le Kenya parce que c'est un peu emblématique. J'ai vécu 4 ans, donc c'est un pays que je connais bien, et je connais un petit peu tous les mécanismes qui font que comment le trafic peut s'organiser et peut continuer de proliférer. Mais on le retrouve même dans d'autres pays, par exemple en Centrafrique. J'avais été là-bas pour couvrir la guerre qui avait éclaté là, il y a 2-3 ans, au moment de la chute de François Bozizé. Et j'avais appris que là-bas, il y a aussi un braconnage d'éléphants. Là, ce sont des éléphants de forêt, hein, c'est-à-dire qu'ils sont plus petits que les éléphants de savane, et que dans la mesure où dans le pays voisin, au Soudan du Sud, il n'y a plus d'éléphants à braconner, c'était les éléphants de Centrafrique qui étaient braconnés. C'est-à-dire on a constamment... Pour les éléphants, pour les défenses de rhinocéros, même les peaux d'ânes maintenant, les ânes sont braconnés en Afrique pour partir en Chine.
Toujours la Chine d'ailleurs, hein, c'est le cas dans votre livre. Hein.
Oui, toujours la Chine. Même les pangolins là sont ces animaux absolument à la cuirasse là, absolument merveilleux, je trouve, enfin très fascinant, qui semblent sortir d'une autre époque. Sont également braconnés, donc oui, la Chine, les Chinois sont très présents en Afrique finalement, que ce soit pour le braconnage ou que ce soit pour les ressources naturelles, qui sont une autre forme de braconnage, on pourrait dire.
Une semaine d'actualité.
Alors, autre grand titre de l'actualité internationale, Jean-Pierre Campagne, vous qui prenez souvent l'avion cette semaine, c'est l'interdiction de vol de tous les Boeing 737 MAX dans le monde après le crash dimanche d'un de ces appareils qui portait celui-là les couleurs d'Ethiopian Airlines. Aux États-Unis, correspondance d'Éric De Salve.
Dans son usine de Seattle où sont assemblés les 737 MAX, Boeing assure que la production va continuer. Les livraisons aux compagnies aériennes sont en revanche stoppées net, et ce jusqu'à ce que ses ingénieurs trouvent une solution. En attendant, le constructeur va devoir faire de la place pour stocker ses appareils produits sans pouvoir être livrés. Chaque mois, 52 avions sortent de ses entrepôts. 4600 ont déjà été commandés. En 2013, quand le Dreamliner avait été immobilisé, il avait fallu 3 mois à Boeing pour régler le problème technique, mais après 2 crashs meurtriers, la crise du 737 MAX paraît cette fois plus complexe. Le constructeur travaillait déjà sur une nouvelle version de son logiciel de stabilisation depuis sa mise en cause dans le premier crash de la Lion Air en Indonésie en octobre. Mais cette version attendue pour avril devrait être reportée en fonction des résultats des boîtes noires du crash d'Ethiopian. De ces analyses dépendra aussi la levée de l'interdiction de vol des 737 MAX actuellement décidée par la totalité des agences aéronautiques mondiales. Pas avant plusieurs semaines au minimum selon le régulateur américain. Une durée au coût exorbitant pour Boeing dont l'action a déjà chuté de 11% depuis dimanche. Mais selon les spécialistes, avec 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, le constructeur devrait pouvoir absorber le choc.
Cap vers la Syrie maintenant et la chute de l'organisation de l'État islamique avec la reprise de Barouz. On vous en parle dans nos journaux, bien entendu. De Beyrouth, jeudi, Paul Khalife a fait un point sur cette fin annoncée de la guerre donc en Syrie.
Au plus fort de la guerre en 2014, le gouvernement syrien avait perdu 80% du territoire et seule la moitié des 25 millions de Syriens vivaient encore sous son administration. Le groupe État islamique contrôlait la moitié de ce pays de 180 000 km². Les rebelles islamistes d'obédience diverse en contrôlaient le quart et les Kurdes étaient présents au nord-est. À partir de 2015, la situation a commencé à changer avec la participation directe de l'armée russe au combat. Aujourd'hui, les rapports de force militaires ont radicalement changé en faveur du gouvernement syrien, qui a repris le contrôle de plus de 70% du territoire où vivent les trois quarts de la population. Le régime a redéployé son armée le long de la frontière avec le Liban et la Jordanie et une partie de celle avec l'Irak. Les derniers combattants du groupe État islamique sont encerclés dans un réduit de quelques centaines de mètres carrés à l'est de l'Euphrate. Les Kurdes, eux, contrôlent le quart du pays où ils ont installé une administration autonome. Les djihadistes se sont rassemblés dans la province d'Idlib, au nord-ouest. Leur nombre varierait entre 30 000 et 50 000 combattants. Enfin, les rebelles islamistes sont présents dans une bande frontalière longue de 400 km dans le nord du pays, sous la protection de l'armée turque qui déploie plusieurs milliers de soldats en Syrie.
Nous sommes toujours en compagnie de notre confrère de l'AFP et écrivain Jean-Pierre Campagne, qui vient d'écrire « Demande à la savane », un livre dont nous parlons dans cette émission, un roman policier. Vous vouliez dire quelque chose sur Ethiopian Airlines ?
Oui, j'ai été très choqué d'apprendre cet accident, parce que c'est une compagnie que je connais. J'ai encore volé avec elle en décembre, pour me rendre dans l'est de la République démocratique du Congo, passant par Paris, Addis Abeba, Entebbe, en Ouganda et Goma. Et c'est toujours une compagnie qui m'a paru très très fiable. Voilà, donc je suis pas un expert, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais apparemment, c'est vraiment un type d'avion qui est en cause.
Oui, semble-t-il, oui. Et puis ils sont hyper organisés. Moi, j'avais assisté à la chute de Mengistu à Addis Abeba il y a 25 ans. Et j'avais pris Ethiopian Airlines alors qu'on était quand même en pleine guerre civile. Et la compagnie avait superbement bien fonctionné jusqu'à Rome sans problème. Ils ont leurs ingénieurs, ils ont leurs techniciens, ils n'ont pas besoin de comme d'autres compagnies africaines de faire appel à des techniciens ou des ingénieurs étrangers.
L'Éthiopie, qui est un des pays africains qui a le plus changé en peu d'années finalement. La présidente éthiopienne était l'invitée de RFI dimanche dernier.
Ah ouais,
le contraste est saisissant.
Ah bah oui, là, surtout politiquement, là ils ont un premier ministre qui leur fait beaucoup de bien en fait, hein. Il a réussi à isoler la vieille garde éthiopienne, celle qui avait les Tigrins qui avaient renversé Mengistu. Il a réussi à faire la paix avec l'Érythrée, l'ennemi, le frère ennemi, mais qui, ça faisait quand même des années qu'ils étaient sur les dents.
Après, il y a même une ouverture aujourd'hui,
oui.
Une ouverture diplomatique et
oui, oui, concrète. Il y a même une ouverture. Et puis, je crois, assez intelligemment, il accepte bien évidemment, il ne peut pas faire autrement la présence chinoise, mais il essaie quand même que ce soit plutôt que les Éthiopiens quand même en tirent un certain avantage, c'est-à-dire que contrairement à d'autres pays, il se fait pas juste vandaliser, si je puis dire, par les Chinois, qui ont toujours ce système de nous vous prenons les ressources, vos ressources minières, vos ressources naturelles,
en échange,
et en échange nous vous construisons des routes et
des
aéroports, là, comme l'aéroport d'Addis Abeba, qui a énormément changé. Ce sont les Chinois qui l'ont fait. Et c'est eux aussi qui ont fait la voie ferrée entre Addis Abeba et Djibouti. L'ancienne voie ferrée que j'avais prise, moi, quand elle fonctionnait encore et que les Français avaient à l'époque construite.
On reparlera de Djibouti dans un instant, Jean-Pierre Campagne. La chute de l'État islamique, en tout cas dans sa composante territoriale, en Syrie et en Irak, vous avez...
Oui, c'est un peu ce qui était annoncé quand même, qui se fait plus lentement. Ce n'était dit. Voilà, on a Assad, effectivement, qui est en train de se redresser.
Et 8 ans de guerre.
Et fort quand même du soutien iranien et russe. Hein. Moi, j'étais à Alep en 2012, je me souviens, un moment où vraiment ces forces bombardaient la ville, bombardaient les hôpitaux. On pensait quand même que ce grand criminel de guerre allait être, d'une façon ou d'une autre, arrêté par la communauté internationale. Eh bien non. Pas du tout. Il est en train de regagner du terrain. Pas tout seul, certes. Il est aidé. Mais finalement, tout le monde se dit, la communauté internationale au moins se dit, il est moins pire qu'un État islamique qui prendrait possession et de la Syrie et de l'Irak.
Vous étiez aussi, Jean-Pierre Campagne, en Afghanistan en 2001, quand les Américains ont lancé leur opération contre Ben Laden après les attentats du 11 septembre. Il faut noter aussi dans l'actualité cette semaine que les États-Unis et les talibans ont salué mardi des progrès à l'issue de nouveau pour parler sur la paix en Afghanistan. Les talibans sont en train de reprendre peu à peu le contrôle.
Oui, comme ils n'avaient jamais perdu contact avec les Américains, qui se sont quand même assez vite dit que c'était moins pire, hein, que Daesh ou que des extrémistes islamistes. Ils sont là et à mon avis, oui, ils vont petit à petit revenir. Mais c'est surtout la défaite des Américains en Afghanistan comme les Soviétiques avaient échoué en Afghanistan. C'est un pays que finalement aucune puissance étrangère ne peut contrôler.
Oui, oui. Et les Afghans qui résistent effectivement à toute opération d'invasion, les Soviétiques dans les années 80.
Les Soviétiques, l'armée rouge avait dû plier bagages. Et quand on voit le relief, la topographie du pays, de l'Afghanistan, avec ses collines, ses montagnes, partout, on comprend effectivement. C'est un pays qui est impossible à tenir, mais on peut remonter jusqu'au Vietnam. Les Américains ont aussi échoué au Vietnam, finalement. Plusieurs composantes d'un pays se défendent contre une présence étrangère, c'est toujours l'étranger qui doit partir.
Il faut aussi avoir une pensée dans cette émission pour l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, Jean-Pierre Campagne, célèbre militante des droits humains, qui purge une peine de prison de 5 ans en ce moment et qui a été condamnée à 10 années d'emprisonnement supplémentaire et 148 coups de fouet. Tout cela parce qu'elle défend les femmes qui refusent de porter le voile.
Oui, ça c'est juste abominable. Il y a une campagne sur les réseaux sociaux pour arriver à ce que cette condamnation soit levée. C'est juste, que dire d'autre, c'est juste abominable.
Nous allons partir en Afrique là maintenant pour le reste de l'émission. Une question sur Demande à la savane, sur votre roman. Pour la première fois, il me semble, vous avez voulu faire un roman policier. Pour quelle raison ?
J'avais déjà abordé le sujet dans un précédent, mais il y a pas mal d'années, et là j'ai voulu y revenir de façon un peu plus marquée.
C'est une enquête qui se déroule dans un parc national.
Oui, mais parce que quand on parle finalement de choses extrêmement dures, parce que il y a le braconnage des éléphants, mais il y a également ces attaques menées par des islamistes somaliens contre un collège. Là, je me suis inspiré d'un fait divers qui a existé à Garissa, dans le nord du Kenya, près de la Somalie. Il y avait un commando qui était venu assassiner des collégiens. Donc, quand on parle de ces choses qui sont évidemment très sombres, qui sont l'aspect le plus noir de l'humanité, on a tendance à vouloir mettre en place un roman noir, un polar, mettre en place une intrigue de cet ordre-là. Et puis, j'aimais bien cette alliance entre le policier qui s'est fait virer de la police, et puis son ami...
Cœur léger.
Oui, cœur léger, voilà, il s'appelle Moyo, ça veut dire cœur en swahili, cœur léger, et puis son amie d'enfance, Jane, qui elle est une brillante reporter du Daily Nation, qui est un excellent quotidien kényan d'ailleurs.
Et tous deux partent faire une enquête dans ce parc national, justement, pour essayer de savoir pourquoi il y a du braconnage.
Au sujet, pourquoi ils le savent, mais ils vont enquêter, effectivement. Et là, on se rend compte que tout est assez pourri dans le domaine, parce que c'est un des parcs, le parc Samburu, pour le nommer, qui est sûrement des meilleurs parcs kényans tenus. C'est-à-dire, il y a des gardes qui sont là, des rangers, il y a des fonds.
Pas toujours très fiable, en tout cas dans votre roman.
Il y a des fonds de l'Union Européenne qui sont donnés, de mécènes internationaux également. Et malgré tout, il y a du braconnage. C'est la même chose. Alors là, en plus, on a une directrice qui est une Canadienne, une Québécoise, et qui comprend d'autant moins ce qui se passe, qui essaie de comprendre. Mais vous savez, là, j'étais au Congo il y a peu. J'étais à Goma, il y a un grand parc national qui était fermé, les Virunga, parce qu'il y avait eu des attaques à l'intérieur. Et pourtant, j'ai croisé les rangers des Virunga, je peux vous assurer, ils sont bien mieux équipés que les soldats de l'armée congolaise. Et malgré tout, ça continue d'exister. On est dans une porosité, il y a une telle appétit des commanditaires pour ces ressources naturelles, puisque les animaux sont des ressources naturelles par essence même, qui semble très très difficile de les bloquer. On voit ça en Afrique du Sud. Les Sud-Africains sont pas les moins bons en la matière pour se défendre. Et malgré tout, ils ont, je sais pas combien par an, de quelques centaines de rhinocéros qui sont braconnés.
Une semaine d'actualité.
Jean-Pierre, parlons de la France maintenant, je veux dire de la France et de l'Afrique, avec la série de voyages d'Emmanuel Macron dans l'Est du continent cette semaine, à Djibouti notamment. Alors, bilan de ces visites avec Anthony Lattier qui a suivi le président français.
Au cours de son périple, Emmanuel Macron a trouvé sur son chemin un chef de l'État djiboutien quelque peu ironique sur le retour d'un président français sur son sol. « Je n'ai jamais perdu espoir et je ne vous ai pas attendu pour développer mon pays », lui a dit en substance Ismaël Omar Guelleh. Au Kenya, l'ambiance était plus détendue avec Uhuru Kenyatta. Le président s'est fait un nouvel ami, mais un ami pragmatique avec qui on est là pour parler affaires et signer des contrats. Mais Emmanuel Macron a surtout confirmé son excellente relation avec le premier ministre éthiopien. Une question de génération génération sans doute. Avec le jeune réformateur Abiy Ahmed, le courant passe. Leur conférence de presse complice s'est prolongée par une soirée barbecue à l'ambiance bon enfant au milieu des lions empaillés de l'ancien palais présidentiel. Fil rouge de cette tournée, l'influence de la Chine. Emmanuel Macron veut croire que la France peut jouer un rôle de balancier dans la région. Il a donc été question de stabilisation régionale, d'économie, d'éducation, de coopération militaire, de tout cela sauf des droits de l'homme et de bonne gouvernance, des questions avec lesquelles le président français ne semble pas vouloir s'embarrasser pour faire avancer sa nouvelle politique africaine.
Emmanuel Macron s'est donc rendu au Kenya. C'était la première visite d'un président français depuis l'indépendance du pays en 1963. Au programme, notamment une rencontre avec des étudiants, correspondant cette fois de Sébastien Nemeth.
His Excellency.
Une étudiante se permet une petite familiarité, preuve que le président français a su détendre un auditoire pas forcément acquis à sa cause. Emmanuel Macron en a d'ailleurs profité pour expliquer ses intentions.
Je suis le président d'un pays au passé colonial, mais ma génération n'a jamais connu cette époque. Or, nos relations ont souvent été polluées par ce passé. Nous devons maintenant construire une nouvelle histoire pour aider un continent dont la population est super jeune à réussir.
Économie, politique, éducation, le chef de l'État a répondu de bon cœur. Il a aussi annoncé le lancement prochain du programme Welcome to France pour faciliter les partenariats, notamment scolaires. Anthony Maniara, président de l'association des étudiants, l'attend au tournant.
Ça va amener des programmes d'échange ou des bourses. Très souvent, les politiciens font des promesses qu'ils ne tiennent pas, mais nos étudiants seront vigilants pour s'assurer que ces paroles seront suivies des faits.
Alors qu'à Ouagadougou, les Burkinabés n'avaient pas hésité à poser les questions qui fâchent, Malcolm Bae, étudiant kényan en troisième année, a trouvé ses camarades trop dociles.
Ils lui ont léché les bottes. Ils n'ont pas posé les questions importantes. Par exemple, la France contrôle toujours le franc CFA. Il dit qu'il croit en l'Afrique. S'il ne règle pas ses questions, comment peut-on lui faire confiance?
Inconnu à Nairobi, le président français a marqué quelques points, mais les Kenyans ont encore besoin de temps pour lui accorder leur confiance.
Vous voyez, Jean-Pierre Campagne, nous repartons au Kenya, nous y voilà. Nous y voilà, oui, on a bien compris. On va faire, avant de parler du Kenya spécifiquement, un mot sur l'étape de Djibouti, où le président de Djibouti a rappelé ironiquement qu'il était content de voir un président français.
Oui, parce que c'était Ismaël Omar Guelleh, c'était le neveu de l'ancien président Hassan Goled Atidon, et il a toujours eu une certaine animosité envers la France. Bon, il a hérité d'un pays qui avait une rébellion. Les Français soutenaient d'ailleurs cette rébellion, les Afars, contre les Issa. Lui, il fait partie du clan des Issa. D'ailleurs, on appelle Djibouti avant c'est
les Afars et les Issa.
Territoire des Afars et des Issa. Donc, il a toujours été quand même, et c'est pas un hasard s'il a assez vite ouvert les bases, la possibilité de bases militaires, à laquelle, auparavant, il n'y avait que des Français, à d'autres corps étrangers, notamment les Américains, les Chinois, maintenant.
Les Chinois qui ont ouvert leur grande base.
Oui. Et les Japonais, d'ailleurs. Une petite présence. C'est quelqu'un qui est très business, Ismaël Omar Guelleh. Voilà, donc oui, c'est pas étonnant s'il a déjà dit. Je crois qu'il a voulu aussi dire à Macron que ça y est, que le Djibouti est dans de bonnes mains et qu'il n'a pas besoin de l'ancienne puissance coloniale.
Rappelons qu'à Djibouti, la France a sa plus grande base, hein, il me semble.
Oui, exactement. Hein. Maintenant, c'est plus 4000 soldats, c'est 1500 soldats ou 1700, mais oui, c'est là. Elle est... Stratégiquement, c'est super bien situé. Djibouti, c'est sur le Bab el-Mandeb, là, c'est sur le détroit, c'est au débouché de la mer Rouge et du canal de Suez. C'est juste super. Et d'ailleurs, faudrait juste dire un petit mot. C'est que les Chinois s'intéressent d'autant plus à Djibouti que dans le fameux projet de la route de la soie qu'ils veulent mettre en place, ils ont deux voies, et une voie qui va passer par les terres, mais une autre voie maritime qui va passer donc qui va traverser l'océan Indien et qui va arriver par Djibouti. Donc oui, c'est une position très, très hautement géostratégique.
Le Kenya, Jean-Pierre Campagne, première visite d'un président français depuis l'indépendance du pays.
Oui, on pourrait même dire première visite d'un président français, je pense, parce que de mémoire, je pense pas que De Gaulle ait été au Kenya à l'époque, sûrement pas. Donc on peut même dire première visite d'un président français. C'est bien, un président français.
Je vous sens pas vraiment convaincu.
Non, c'est très bien. Mais un président français sort du précaré habituel, c'est très bien.
Ça, effectivement, c'est à noter. Hein, c'est...
Oui, il vient en Afrique de l'Est, il s'intéresse au Kenya, il s'intéresse à l'Éthiopie. Bon, Djibouti, c'est un petit peu différent. Mais non, c'est une très bonne chose. Il a tenté Djibouti.
Il était au Nigeria aussi, il y a quelques
mois. Oui, il avait été au Nigeria. Je crois que c'est plutôt... Enfin, c'est même franchement bien. Avec l'Éthiopie, c'est très bien qu'il soit venu appuyer le Premier ministre éthiopien, qui a besoin quand même d'un soutien international, qui n'est pas à l'abri d'un contre-coup intérieur de l'ancienne garde.
Vous aviez un petit sourire en écoutant le président français face aux étudiants kényans.
Oui, non, parce que Macron, hier j'étais encore à l'AFP, effectivement, les jours précédents et les jours à venir, on parlera de sa position toujours très verte quand il est à l'extérieur du pays, c'est-à-dire, et là il a participé au sommet One Planet Summit.
One Planet,
ouais. Oui. Oui, bon, d'accord. Mais je préférerais, franchement, et je suis pas le seul, qu'il soit plus vert et plus écolo, et qu'il soit davantage soucieux du réchauffement climatique lorsqu'il est en France et lorsqu'il s'agit de la politique intérieure française. Parce que quand même, il y a certaines choses qui sont quand même assez étonnantes. L'agriculture biologique, par exemple, les soutiens aux paysans qui veulent se convertir dans l'agriculture biologique ont été affaiblis ces dernières années.
En France, oui.
Et ça, c'est quand même des marqueurs fondamentaux, parce que de quoi a-t-on besoin pour vivre au quotidien ? On a besoin d'un air le meilleur possible, de l'eau la meilleure possible, mais aussi d'une alimentation la plus saine.
Ce qui a priori semble simple, mais qui est devenu très compliqué.
Mais oui, parce que regardez, avec l'histoire du glyphosate, on avait quand même espéré, et Nicolas Hulot, avant qu'il ne démissionne, espérait lui également, il s'était même un petit peu avancé, un petit peu engagé en ce sens-là. Eh bien, le glyphosate est toujours autorisé, il y a de nouveau un moratoire de 2 ou 3 ans, si je me souviens bien, et ça, il me semble quand même que Macron devrait, à l'intérieur et en politique intérieure, donner des signes plus importants de son engagement envers, plutôt contre le réchauffement climatique.
Et on sent sa volonté de s'adresser à un public jeune, c'est-à-dire une nouvelle génération d'Africains.
Voilà, il est jeune, c'est un jeune président, Macron. Quand on a 40 ans, quand on est président, on est jeune. Il l'avait fait au Burkina Faso, il s'était adressé à des jeunes, il avait eu beaucoup de succès. Là, il l'a fait également au Kenya. Bon, voilà, oui, il a raison, il faut parler aux jeunes, mais il faut être cohérent en leur parlant.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, vous la connaissez par cœur. Continuez à nous écrire. Merci pour vos messages, ils nous font toujours plaisir. Et je salue aujourd'hui Abdoulaye qui nous écoute à Bamako, Babacar qui nous suit à Dakar. Je salue Larry au Gabon, Issouf à Boroma au Burkina Faso et Césaire qui nous écoute lui à Lomé et qui sourit à chaque fois, dit-il, qu'il entend parler de transparence dans les élections en Afrique.
Une semaine d'actualité.
Jean-Pierre Campagne, avant de reparler du Kenya, partons pour l'Algérie, si vous le voulez bien. Après le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat, l'annulation donc aussi de l'élection présidentielle et l'ouverture d'une période de transition très incertaine. Malgré cela, le mouvement de protestation continue avec manifestations et grèves dans tout le pays. Léa Lisa Versterhoff a fait un point, par exemple, mercredi.
Rideaux tirés, rue déserte, à part quelques boulangeries et pompes à essence ouvertes, dans la région de Kabylie, le 4e jour de grève était toujours suivi à quasi 100%. La Senamgar, retraitée à Sédouk, une localité de 50 000 habitants, confirme.
Tout est fermé, il n'y a pas d'essence. Les mairies sont fermées, la poste est fermée. Bon, il n'y a que le commissariat, bon, c'est normal, c'est la police, bon, ils sont là et... C'est tout, c'est vraiment suivi, c'est mobilisé, mais vraiment.
Ville morte aussi du côté de Tizi Ouzou et Gardaïa, les deux plus grandes villes de Kabylie, où des manifestations d'enseignants ont également eu lieu hier. Pour Abdelmalek Azi, enseignant à Gardaïa, c'est dans cette mobilisation tout azimut que réside la spécificité et la force de ce mouvement de contestation.
C'est le plus important parce que c'est ça qui démontre que le peuple est uni et qu'il continue à revendiquer le départ de ce régime politique. Lorsqu'on vous change un ministre, par l'ancien ministre de l'Intérieur, ça s'appelle pas du changement, ça.
Résultat, toutes les grandes villes du pays promettent de nouvelles manifestations à venir pour faire partir le régime en place, disent les manifestants.
Et hier, vendredi, il y a eu une nouvelle journée de manifestation. On vous en parle également dans nos journaux. Période de transition donc à venir en Algérie. À quoi pourrait-elle ressembler? Jeudi, à Alger, Leïla Berato a eu quelques informations après la déclaration du nouveau Premier ministre algérien.
Le Premier ministre Nouredine Bédoui a affirmé qu'un nouveau gouvernement de technocrates, composé aussi de jeunes et de femmes, serait nommé d'ici la semaine prochaine. Et la transition pourrait ainsi commencer.
Après la formation du gouvernement, nous allons passer en tant qu'Algériens à la mise en place des mécanismes nécessaires à cette conférence nationale inclusive.
Le Premier ministre algérien a répété à plusieurs reprises que les portes du dialogue étaient ouvertes à l'opposition, sans répondre aux questions des journalistes qui demandaient comment la rue allait pouvoir être représentée.
Nous assurons tous les partenaires, et particulièrement les partenaires de l'opposition, des possibilités de dialoguer, de parler et de s'entendre.
Nouredine Bédoui a affirmé hier que la période de transition qui mènera à une nouvelle élection présidentielle ne devrait pas être plus longue qu'une année.
Jean-Pierre Campagne, vous suivez aussi ce qui se passe en Algérie. Oui, oui. Les manifestants ne vont pas s'arrêter à la décision d'Abdelaziz Bouteflika il y a quelques jours.
Non. Visiblement non, et je pense qu'ils ont raison. J'étais à l'AFP quand on a donné, nous, l'alerte, quand on a dit qu'il renonçait à se présenter. Il y a eu d'abord, évidemment, une satisfaction générale. Et très, très vite, les gens se sont dit oui, mais après. Et on a eu une deuxième alerte.
Parce que là, c'est un mandat à durée indéterminée.
Mais voilà, exactement. On a eu une deuxième alerte qui disait qu'il restait et que d'ici la fin de l'année, conférence nationale, on sent bien que le régime tente de gagner du temps, comme tous les régimes qui sont confrontés à une révolte populaire. On peut parler d'une révolte populaire. En plus, là, ce qui est intéressant dans cette histoire algérienne, c'est que c'est vraiment une lame de fond là qui arrive. C'est-à-dire, les Algériens avaient été vraiment traumatisés par les années
90,
de plomb, là, ces années 90, avec ces assassinats perpétuels. Ce qui fait que quand il y a eu les printemps arabes, ils n'ont pas bougé, pratiquement pas. Et là, cette génération qui, en 90, naissait à peine, c'est cette génération là maintenant qui se lève et qui se réveille. Et elle est très intéressante parce qu'ils arrivent sans complexe, mais avec une forte envie de changer de manière pacifique. C'est très, très intéressant comme processus. J'ai des amis, moi, qui vivent en France, hein, des Algériens ou des Français d'origine algérienne qui sont partis là-bas pour suivre, pour observer.
Oui, ouais, oui. Pour être au plus près de l'événement.
Oui, ils sont vraiment...
Un mot sur la République démocratique du Congo, pays que vous connaissez bien, que vous aimez. Je sais que vous adorez Kinshasa, on en avait encore une fois parlé il y a deux ans. On a appris cette semaine que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié un rapport sur une série d'attaques dans le territoire de Yumbi, de la province de Mai Ndombe, massacre qui a eu lieu à la mi-décembre. Des attaques très rapides qui ont fait au moins 500 morts et quelques 16 000 déplacés.
Oui, c'est un mystère. J'étais là-bas, moi, à ce moment-là, non pas à Yumbi, mais dans l'est du Congo, pour couvrir l'élection présidentielle. Et tout d'un coup, oui, c'est sorti comme ça, un massacre, c'est arrivé. Et on ne sait toujours pas les raisons exactes. Et deux communautés se sont affrontées pour un prétexte qui a l'air très, très bénin et qui, de mon point de vue, n'est pas le vrai. C'est-à-dire que le chef de l'une des deux ethnies, de l'une des deux communautés, est mort. Donc l'autre communauté a voulu aller l'enterrer sur des terres qui appartenaient à la deuxième communauté. Ils auraient commencé à s'affronter. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il y a d'autres raisons qui sont des raisons politiques, des raisons économiques, et que ces appartenances ethniques, une fois de plus, en Afrique, comme très très souvent, sont le prétexte, en réalité, à des règlements de compte.
Le Rwanda, vous voulez parler du Rwanda. Le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, a déclenché une polémique, on en a parlé sur notre antenne et sur le site de RFI, à propos de ses opposants. Il s'agit cette fois de Seth Ndashonga, que vous connaissez.
Seth Ndashonga, l'ancien ministre de l'Intérieur.
Paul Kagame a reconnu que l'ancien ministre de l'Intérieur a été tué parce qu'il avait franchi une ligne rouge en cherchant du soutien auprès des généraux ougandais. C'est un aveu de certaines méthodes, alors?
Oui, je crois que Kagame avance maintenant sans complexe vis-à-vis de ses opposants. J'avais connu le ministre de l'Intérieur, il avait été très vite nommé ministre de l'Intérieur, c'était un Hutu d'ailleurs, et puis il a été assassiné en 98 alors qu'il se trouvait au Kenya, à Nairobi. Bon là, Kagame dit clairement que oui, il a été tué parce que il allait à l'encontre des intérêts du Rwanda en ayant des liens avec l'Ouganda, alors que Kagame quand même a mené sa rébellion depuis l'Ouganda. Oui. Il a toujours été en accord avec Museveni. Il a été son chef quand même du renseignement militaire, puisqu'il est né, il avait 4 ans quand ses parents sont venus se réfugier en Ouganda. Donc c'est très étonnant. Mais on a aussi des opposants d'anciens partenaires de Kagame qui sont en Afrique du Sud. Il y en a un qui avait été trouvé assassiné. On n'a aucune preuve que Kagame a donné l'ordre. Mais enfin, un autre, c'était une tentative d'assassinat. Des gens toujours très haut passés, des chefs du renseignement militaire, un ancien chef d'état-major. Donc oui, on semble qu'il pratique l'assassinat ciblé comme une politique pour se débarrasser de certains de ses adversaires, et même à l'intérieur du pays.
À Rwanda, toujours, Jean-Pierre, avec une déclaration, un témoignage de nos confrères, chez nos confrères de Radio France, témoignage d'un général français, c'est une pièce supplémentaire versée au dossier sur le génocide il y a 25 ans, qui a eu lieu en 1994. Général qui s'appelle le général Jean Varé, qui était le chef de la mission militaire de coopération Rwanda de 1990 à 1993, donc avant le génocide, estime que les militaires français, certains militaires français, n'ont pas pris en compte les risques du soutien à l'ancien président rwandais Habyarimana. Ça vous semble déterminant, enfin important?
Oui, oui, je trouve c'est intéressant ce que dit ce général. Il se trouve que j'étais là-bas, moi, à ce moment-là, pour l'AFP. J'étais en poste à Nairobi, et donc j'avais couvert en 92 des premiers massacres, des centaines de Tutsis qui avaient été assassinés, massacrés dans Bugesera, c'est-à-dire à 50 kilomètres à peine au sud de Kigali. Et un tel massacre, bien évidemment, ne pouvait pas passer inaperçu. Moi, j'avais écrit des dépêches, donc qui étaient reçues par les ambassades, par l'Élysée, par tous les ministères. Donc, bien évidemment, on savait déjà ce qui avait lieu, c'est-à-dire déjà des massacres d'une importance énorme, plusieurs centaines de personnes assassinées. Ça n'a pas l'intensité et l'ampleur du génocide qui est arrivé 2 ans après, mais c'est déjà quand même des signes d'alarme, des warnings absolument phénoménaux. On peut pas comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il y a une énorme polémique en France entre ceux qui pensent que la France a un grand rôle dans le génocide, ceux qui pensent qu'elle n'en a pas.
Bon. Le débat fait rage depuis 1994 sur la responsabilité de la France, directe ou indirecte.
D'accord, exactement. Toujours, ça a toujours été ça. Bon, moi je rappelle juste que ce sont quand même des Rwandais qui ont massacré des Rwandais, comme au Cambodge. Les génocides des Khmers sont des Khmers qui ont massacré des Khmers. Cela étant, on peut comprendre ce qui s'est passé que dans le contexte de... Il faut quand même contextualiser au niveau international et régional. On avait Kagame qui avait dû quitter en 1959 avec ses parents alors qu'il avait 4 ans. Ses parents, il y a eu une révolution entre guillemets Hutu, oui, qui a viré les Tutsis. Ils sont venus se réfugier en Ouganda. Donc il est né en Ouganda. C'est pour ça qu'il est anglophone, Kagame. Il est arrivé à 4 ans. Il a travaillé après, quand il est devenu adolescent, un jeune homme, chef du renseignement militaire de Museveni, qui est toujours président d'ailleurs de l'Ouganda actuellement. Il avait bien évidemment une revanche à prendre. Donc il a tenté, depuis 1990, d'entrer au Rwanda pour virer les Hutus. L'armée française à ce moment-là est intervenue, a bloqué le FPR. Et donc, il y avait depuis cette volonté, effectivement, d'en découdre. Kagame voulait prendre sa revanche, et les gens qui étaient au pouvoir à Kigali ne voulait bien évidemment pas lâcher le pouvoir. On avait des négociations qui avaient lieu à Arusha à ce moment-là. Nous espérions une solution politique avec un partage du pouvoir. Ça n'a pas eu lieu. Ce général dit juste une réalité que j'ai quand même constatée, et je trouve que c'est honorable qu'il en parle, c'est que des militaires français étaient bien évidemment présents pour aider le pouvoir d'Habyarimana, qui à l'époque avait le soutien de Mitterrand, très clairement. Mais ça ne veut pas dire, et le général le dit très clairement, qu'ils avaient réalisé, qu'ils avaient compris, qu'ils avaient pu imaginer l'intensité de ce qui allait se passer avec les génocides, avec cette abomination du génocide. Mais oui, il y avait quand même déjà des signes avant-coureurs qui n'ont pas été assez pris en compte.
Et il y a pendant le génocide des témoignages, je pense notamment celui de Guillaume Ancel, qui était lieutenant-colonel de l'armée française, qui a écrit un témoignage sur sa mission lors de l'opération turquoise, qui nous disait qu'il y avait des ordres qu'on leur donnait, qui étaient assez étranges et qui donnaient à penser, c'est le moins qu'on puisse dire, que les génocidaires étaient protégés. Qu'il fallait les laisser, par exemple, aller se réfugier à Goma, enfin en RDC voisine.
Oui, il y a eu une tentative. Bon, pour moi, cette opération turquoise, elle a, comme souvent quand ça se passe dans des situations extrêmement tendues, extrêmement rapides, elle a eu deux effets. Elle a eu un premier effet qui a quand même été de ralentir les génocides. Pas de l'arrêter, mais de le ralentir, très clairement. Mais elle a eu, en même temps, un deuxième effet, qui était concomitant, c'était de permettre quand même l'exfiltration, notamment du clan Agazou, là, de ceux qui étaient autour d'Abiyarimana, de sa femme et autres, de permettre de les sortir indemnes, les sains et saufs, du Rwanda. Ça a aussi permis quand même de protéger pendant un moment le gouvernement qui s'était mis en place. Il y a eu des livraisons d'armes. Là, on a quand même des témoignages de plus en plus qui corroborent de plus en plus. Donc oui, il y a eu non pas une participation active des militaires français. Ça, je pense que c'est totalement exclu. Mais en revanche, il y a eu du laisser-passer, il y a eu du laisser-faire. Et il y avait quand même cette forte animosité envers Kagame, l'anglophone, qui depuis l'Ouganda a mené avec succès la contre-attaque jusqu'à Kigali.
Terminons cette émission au Kenya. On a commencé au Kenya, on va la terminer au Kenya avec votre roman policier Jean-Pierre Campagne, Demande à la savane. Vous nous dressez une galerie de portraits absolument incroyables entre cette journaliste dont vous parliez tout à l'heure, Daily Nation, Cœur Léger, qui est un ex-flic, ce Shebab Mohamed, terroriste djihadiste, ces trafiquants chinois, le directeur du parc national qui est douteux. Je fais exprès de ne pas raconter l'histoire, hein, c'est un roman policier. Donc on est prié de ne pas raconter l'histoire. C'est une galerie de portraits de gens que vous avez déjà rencontrés lors de vos différents périples, voyages, reportages en Afrique.
Vous savez, le processus littéraire de création littéraire est toujours un petit peu
mystérieux.
Et en réalité, il y a des bribes de personnes rencontrées de ci, de là. Non, aucun de ces personnages. Je n'ai rencontré aucune de ces personnes, de ces personnages, mais. Voilà, non, ils se construisent petit à petit, à la faveur des jours, à la faveur des nuits.
Et ils sont terriblement humains, en tout cas, si je puis dire, parce qu'ils ont à la fois leurs forces et leurs faiblesses, et certains se révèlent dans votre roman, font preuve d'un grand courage, alors qu'au départ, on se dit, non, ils sont plutôt pleutres, lâches.
Mais c'est un peu l'avantage d'écrire un roman policier, vous me le demandiez tout à l'heure, c'est que, oui, dans des moments tendus, dans des moments extrêmes, finalement, les personnalités des uns et des autres se révèlent, et eux, oui, ils sont humains, terriblement humains.
Et puis il y a le rythme, il y a l'écriture et le rythme des chapitres, parfois très courts.
Ouais, alors ça c'est lié souvent au quotidien de l'écriveur, c'est-à-dire que...
L'écriveur, hein, vous définissez comme un écriveur.
Oui, je préfère écriveur qu'écrivain, oui. Mais en réalité, oui on dit bien lecteur, donc lecteur, ouais, écriveur, ouais. J'ai mon temps. Oui, ça c'est lié au rythme de vie, parce que j'étais à ce moment-là, j'étais en poste en Afrique, à Libreville pour l'AFP, donc j'avais quand même mon boulot de journaliste à faire. Donc
quand même.
Je prenais du temps le matin avant d'aller au bureau de l'AFP pour écrire, donc oui, puis je trouve que ce genre d'histoire, moi j'ai toujours un souci, que ce soit dans l'écriture d'ailleurs de journalisme ou de littérature, c'est de faire au plus près, au plus juste, d'écrire à l'os, oui. C'est-à-dire il faut pas qu'il y ait de gras, il faut pas que ça s'emballe dans tous les sens, mais il faut en revanche faire sentir et ressentir au maximum, le plus intensément possible.
C'est le cas, et je le recommande vivement, évidemment, il faut le lire, c'est un livre d'aventure, un livre qui nous emmène en Afrique, Demande à la savane, il est publié aux éditions Gigal, et j'ajoute Jean-Pierre Campagne, que vous avez un site où on sait tout de vous et on sait tout de vos textes.
Oui, j'ai un site, c'est jpcampagne.com, et oui, c'est-à-dire les reportages, les livres, les critiques de presse également. On ne sait pas tout de moi, mais on sait une bonne partie.
De votre aspect professionnel, voilà, s'entend évidemment Jean-Pierre Campagne. Donc il faut lire Demande à la savane et aller sur votre site Jean-Pierre Campagne.
jpcampagne.com.
Merci, une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous retrouvons demain pour le magazine Idées. Nous parlerons cette fois de la pensée écologique des penseurs de la défense de l'environnement. Une pensée qui ne date pas d'aujourd'hui, vous le constaterez. Nous serons en compagnie du philosophe Serge Audier qui a consacré un gros et passionnant volume sur ce sujet. Demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI bien sûr.